Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 2 janvier 2024. En direct de Washington, Idrissa Seludia pour commencer les titres. Au Niger, première concertation régionale, prélude au dialogue national inclusif, voulu par les militaires au pouvoir. Au Tchad, l'opposant historique Succès Masra devient Premier ministre. Accord entre l'Éthiopie et le Somaliland pour un accès éthiopien à la mer. Plus de 1000 migrants interceptés dans le nord du Maroc. En Israël, la Cour suprême invalide une disposition clé de la réforme judiciaire du Premier ministre Netanyahou. Ne manquez pas notre page sport, la Minute Éco, ainsi que nos dossiers du jour. Pour l'instant, le journal. Au Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeyn a donné hier lundi à Agadez le coup d'envoi des assises régionales qui doivent se tenir dans les 8 régions du pays, a dit à l'AFP un responsable local d'Agadez qui a requis l'anonymat. C'est en prélude au dialogue national inclusif devant notamment fixer la durée de la transition pour les militaires arrivés au pouvoir fin juillet par un coup d'État, Michel Joseph.
Le chef du gouvernement de transition a assuré à la télévision publique nigérienne que le dialogue national démarrera très bientôt et a exhorté ses débats régionaux à être les plus consensuels et inclusifs possibles. Des officiers du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, organe du régime militaire, des membres du gouvernement, des chefs traditionnels et religieux ont assisté à la cérémonie. Quelques 300 représentants d'élus, de chefs traditionnels, d'ex-combattants des rébellions Touareg de 1991 à 1995, 2007 à 2009, d'organisations de jeunesse, de syndicats, d'ONG, ont tenu les premières concertations pour la région d'Agadez. Les propositions étudiées concernent les 4 axes qui seront débattus au prochain dialogue national, dont la durée de la transition, les principes fondamentaux et les axes prioritaires devant régir cette période. L'exploitation de l'uranium par des sociétés étrangères, dont le géant français Orano, la présence d'une base militaire américaine, les épineux problèmes de l'immigration clandestine, Agadez est une véritable plaque tournante de la migration vers l'Europe, et l'insécurité dans cette zone où se multiplient des mines d'or artisanales, sont également à l'ordre du jour des discussions, a noté un autre participant.
Succès Masra, un des principaux opposants tchadiens de retour d'exil en novembre après un accord de réconciliation, a été nommé hier Premier ministre par le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Le président du parti Les Transformateurs avait été parmi les plus virulents opposants au pouvoir militaire en place depuis 2 ans et demi, après la mort d'Idriss Déby Itno en avril 2021, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans. Quelques jours avant le scrutin référendaire du 17 décembre, M. Masra avait toutefois publiquement appelé son camp à voter oui pour la nouvelle constitution promulguée vendredi, étape clé censée ouvrir la voie à des élections. L'Éthiopie aura désormais accès à la mer grâce à un accord avec le Somaliland, un territoire séparatiste de Somalie, ouvrant ainsi la voie à l'accès maritime de l'Éthiopie et renforçant leur partenariat. Eric Manirakidza.
Cet accord historique vise à sécuriser l'accès maritime de l'Éthiopie et à diversifier ses options portuaires. Il renforce également leur partenariat économique, sécuritaire et politique, souligné par les autorités des deux parties. Depuis 1993, après l'indépendance de l'Érythrée, l'Éthiopie a perdu un accès direct à la mer, dépendant principalement des échanges commerciaux via Djibouti. Avec cette acquisition, l'Éthiopie obtient une part non précisée du port de Berbera sur la côte méridionale du golfe d'Aden, à l'entrée de la mer Rouge qui mène au canal de Suez. Ancien territoire britannique, le Somaliland, bien que déclaré indépendant en 1991, n'a jamais été reconnu par la communauté internationale, malgré ses institutions et sa population de 4,5 millions d'habitants.
Au Maroc, des unités de l'armée ont intercepté dans la nuit du Nouvel An plus d'un millier de migrants dans le nord du royaume. Ils s'apprêtaient à rejoindre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, selon un communiqué. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Selon le communiqué de l'état-major général des forces armées royales, 1110 migrants ont été interceptés dans les villes de Nador, Mdik et Fnedek durant plusieurs opérations de l'armée et des forces de l'ordre marocaines. L'armée a précisé que les 175 migrants appréhendés à Nador, ville frontalière de Melilla, sont originaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et du Yémen, sans donner les nationalités des 935 autres. Située sur la côte nord du Maroc, l'enclave espagnole de Melilla, tout comme celle de Ceuta, sont les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain et font souvent l'objet de tentatives d'entrée clandestine. La route migratoire vers les îles Canaries est l'autre porte d'entrée vers l'Europe dans l'océan Atlantique, depuis les côtes marocaines et du territoire disputé du Sahara occidental. L'archipel espagnol fait face cette année à sa pire crise migratoire depuis 2006. Au 15 novembre, plus de 32 000 migrants sont arrivés aux Canaries, soit un bond de 118% par rapport à la même période en 2022, selon le ministère de l'Intérieur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a retiré ses chars de certains quartiers de Gaza lundi, tout en intensifiant ses bombardements sur l'enclave palestinienne, ont indiqué des habitants. Une manœuvre qui témoigne de l'entrée du conflit dans une nouvelle phase. Israël affirme que la guerre à Gaza devra encore durer plusieurs mois, mais il a annoncé une nouvelle phase dans son offensive, un responsable ayant déclaré lundi que l'armée allait réduire ses forces à l'intérieur de Gaza ce mois-ci et passer à une phase d'opération de nettoyage plus localisée qui durerait des mois. Israël a juré de détruire le Hamas après l'attaque menée le 7 octobre par ce mouvement palestinien qui a fait environ 1140 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir des derniers chiffres officiels israéliens. À Gaza, les opérations militaires israéliennes de représailles ont fait 21 978 morts, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, selon un nouveau bilan annoncé lundi par le ministère de la Santé du Hamas. La Cour suprême israélienne, pendant ce temps, a annoncé hier avoir invalidé une disposition clé de la réforme judiciaire très controversée promu par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, une décision dénoncée par le camp du Premier ministre. Le point avec Nanit Talani.
La mesure invalidée par la Cour prévoyait d'ôter au pouvoir judiciaire le droit de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement ou du Parlement israélien. 8 des 15 juges de la Cour suprême ont voté pour l'invalidation de cette mesure, indique le ministère israélien de la Justice dans un communiqué. Le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, accuse la Cour de s'arroger tous les pouvoirs. Le parti Likoud du Premier ministre Netanyahou a, lui, fustigé le calendrier de cette décision, affirmant qu'il était regrettable que la Cour suprême ait décidé de publier son verdict au cœur d'un débat social en Israël, pendant que les soldats de droite et de gauche se battent et risquent leur vie dans la campagne. La décision de la Cour est contraire à la volonté du peuple d'unité, surtout en période de guerre, ajoute le parti. Depuis l'annonce de la réforme judiciaire en janvier, le projet est contesté dans la rue. Il a été à l'origine d'un des plus importants mouvements de mobilisation populaire de l'histoire d'Israël.
L'agence météorologique japonaise a officiellement levé mardi le risque de tsunami lié au séisme frappant depuis lundi le centre du pays. Séisme qui ont fait au moins 6 morts et de nombreux dégâts matériels. L'agence avait émis lundi une très rare alerte maximale au tsunami dans la foulée de la principale secousse enregistrée à une magnitude de 7,6 par la même agence. Elle avait ensuite progressivement abaissé le niveau de risque de tsunami, qui comprend 3 degrés dans son échelle. En Corée du Sud, le chef de file de l'opposition sud-coréenne, Lee Jae-myung, a été poignardé au cou mardi alors qu'il s'entretenait avec des journalistes dans la ville portuaire de Busan, dans le sud-est de la Corée du Sud, a rapporté l'agence de presse Yonhap et a publié une photo sur laquelle l'homme politique apparaît au sol, un mouchoir couvrant sa blessure. M. Lee était encore conscient lorsqu'il a été transporté à l'hôpital. L'assaillant a été arrêté sur place, selon la même source.
La Minute Écho, Nanit Talani.
Bank of Africa Tanzania a obtenu une garantie des transactions de la BAD pour soutenir le secteur financier tanzanien, notamment les PME et entreprises locales qui devraient accéder au financement du commerce d'importation et d'exportation. La garantie devrait aussi appuyer le commerce intra-africain et contribuer directement à la réussite de la mise en œuvre du programme de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans son plan d'action 2024-2026, la Commission nigériane de réglementation du pétrole révèle qu'elle orientera le développement des actifs pétroliers vers des zones moins sujettes au vol et au vandalisme. Elle fournira également un soutien réglementaire pour des routes alternatives d'évacuation du pétrole brut. Les entreprises pétrolières devront obtenir l'approbation de la Commission pour les nouveaux tracés de l'éoduc. Pour terminer, deux laboratoires à l'Institut supérieur de génie électrique à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ont reçu 555 millions de francs CFA de la Banque africaine de développement pour former des compétences dans le génie électrique. Ce projet concourt aussi à l'employabilité des jeunes, indique Daniel Ndoye, responsable du bureau de la BAD au Burkina.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Algérien Amine Gouiri est forfait pour la CAN.
Oui, l'attaquant de 23 ans n'ira pas en Côte d'Ivoire en raison d'une blessure, selon la Fédération Algérienne de Football. Amine Gouiri joue avant-centre au club français d'Irène. La nature de sa blessure n'a pas été précisée, pas plus que le nom de son remplaçant dans le groupe. Après avoir joué en équipe de France Espoir, Gouiri a rejoint la sélection algérienne en septembre 2023 et avait été retenu par le sélectionneur Jamel Belmadi pour disputer la CAN prévue du 13 janvier au 11 février. L'Algérie est logée dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.
Athlétisme à présent, Béatrice Chebet bat le record du monde du 5000 mètres sur route.
La Kenyane de 23 ans a battu dimanche le record du monde du 5000 mètres sur route en 14 minutes et 13 secondes lors de la Corsa del Nassos à Barcelone. Je suis venu à Barcelone décidé à améliorer le record du monde car je m'en sentais capable, a déclaré Béatrice Achebe après sa victoire. Elle améliore ainsi le précédent record détenu par l'Éthiopienne Sembere Teferi qui avait couru en 14 minutes 29 secondes en septembre 2021 lors d'une course également réservée aux femmes en Allemagne. Une autre Éthiopienne, Ege Gayewuye, a terminé deuxième en 14 minutes et 21 secondes. Le podium a été complété par la Kenyane Liliane Kaseye-Rejeruk en 14 minutes 26 secondes.
Et puis cette triste nouvelle, Benjamin Kiplagat, découvert mort au Kenya.
L'athlète ougandais a été découvert mort au Kenya, a annoncé la police locale, des médias affirmant qu'il a été assassiné. Son corps a été trouvé dans une voiture samedi soir dans les environs de la ville d'Eldoret, dans la vallée du Rift. Une enquête a été ouverte et les policiers cherchent des pistes, a indiqué un responsable de la police locale, Stéphane Okal. Il a précisé que le corps de Benjamin Kiplaga portait une plaie au cou, laissant supposer qu'il a été poignardé. Né au Kenya et âgé de 34 ans, il avait représenté l'Ouganda sur la scène internationale dans des épreuves comme le 3000 mètres steeple, participant aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde.
Merci, Yacouba.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com
et toutes nos plateformes digitales.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ancien farouche opposant au régime de transition, Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a été nommé hier Premier ministre chef du gouvernement. Il remplace Saleh Kebzabo, qui avait démissionné le week-end après la promulgation de la nouvelle constitution issue du référendum du 17 décembre consacrant la Ve République. Une nomination diversement appréciée par les Tchadiens, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
Décret 01-2024, signé le 1er janvier 2024 par le général Mohamed Idriss Déby Itno, président des Transports.
Ahmad Mohamed Alabo, ministre secrétaire général de la présidence, annonçant la nouvelle à la télévision nationale.
Le docteur Succès Masra est nommé premier ministre chef du gouvernement des transitions.
Une nomination diversement appréciée dans la rue de N'Djamena.
Je ne pensais pas que Succès Masra devrait accepter ce poste.
Pour moi, je crois vraiment que Succès Masra ne fera pas comme les opposants qui sont entrés là-bas et qui sont devenus autre chose. Donc on espère vraiment que Succès Masra puisse faire quelque chose de bien pour les Tchadiens.
C'est une honte pour ces militants. Parce que d'abord, il a bien dit qu'il n'est pas venu ici au Tchad pour être nominé. Il est venu pour chercher à être président et gouverner le pays. Mais aujourd'hui, c'est lui qui devient le premier ministre. Pour moi, c'est quelque chose que je n'admets pas.
D'autres citoyens parlent déjà des dossiers qui attendent Dr. Succès Masra en tant que premier ministre.
Il y a une crise qui est en cours actuellement par rapport aux enseignants. S'il peut apporter quelques solutions aux enseignants, afin qu'ils puissent trouver des solutions.
Il est rentré dans l'idée de réconcilier tous les Tchadiens. Comme il reste 10 mois là, on verra ce qui va se passer.
Pour Maître Max Luangar, l'un des porte-parole des actions citoyennes Wakib Tama, qui vit encore en exil, cette nomination est un signe d'apaisement qui fait suite à l'accord de Kinshasa. Mais selon lui, Dr. Succès Masra a deux défis à relever.
Le premier défi est celui des libertés fondamentales, avec les textes scélérats qui ont été pris le 1er août 2023 et pour lesquels nous attendons, pas seulement du gouvernement, mais aussi de l'Assemblée nationale, des corrections dans le sens de préserver la dignité du peuple tchadien. La deuxième tâche, pas des moindres que nous attendons aussi, c'est qu'ils parviennent donc à assainir le dispositif électoral et permettre qu'on aille vers des élections libres et transparentes. C'est ce que nous attendons et il a tout notre soutien pour mener cette tâche-là au bout dans vraiment les formes les plus acceptables possibles.
Certains observateurs de la vie politique tchadienne sont pessimistes et ils attendent voir le nouveau premier ministre à l'œuvre.
On attendra la configuration de son gouvernement pour être situé sur sa capacité à vouloir co-gérer la transition, comme il est dit.
Le politologue et ancien chercheur Dr. Ivaris Garlam Toldé, pour lui, c'est plutôt un piège qu'un signe d'apaisement.
Le président transformateur veut toujours arriver à la tête du pays comme chef de l'État. Maintenant, est-ce qu'il ne sera pas lié par des résolutions du Conseil de paix et de sécurité qui interdit aux autorités de la transition d'être candidat? Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il pourra bien faire parce que pour l'élection présidentielle, c'est dans quelques mois.
Contraint à l'exil après les événements du 20 octobre 2022, jour qualifié de jeudi noir, Dr. Succès Masra est rentré au Tchad le 3 novembre après un accord de principe conclu avec les autorités de N'Djamena. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Colombie, les autorités constatent une augmentation du nombre de migrants africains arrivant à l'aéroport de Bogota. Cette situation a provoqué une crise humanitaire dans une partie de l'enceinte. Sur place dans la capitale colombienne, le reportage de Zahir Diaz, récit Yacouba Ouedraogo.
Ces scènes se déroulent à l'intérieur du terminal international de l'aéroport El Dorado de Bogota. Plus de 200 migrants africains arrivent chaque jour en tant que passagers en transit. Certains, qui parviennent à entrer en Colombie, doivent attendre jusqu'à 5 jours leur vol de correspondance pour le Salvador ou le Nicaragua. La plupart d'entre eux ne sont pas admis, ce qui crée une crise migratoire dans les zones d'attente de l'aéroport. Le général José Luis Ramírez est le directeur de la police de Bogota.
La question de l'aéroport fait déjà l'objet d'une enquête de la part de la Columbia Migration et, en tant que directeur général, nous mettons à profit toutes les capacités de la division criminelle d'Interpol et de la coopération internationale pour faire avancer ce processus d'enquête.
Selon les autorités, nombre de ces migrants africains arrivent à Bogota à bord d'un vol quotidien en provenance d'Istanbul en Turquie dans le but de poursuivre leur voyage vers les États-Unis. José Luis Ramirez, directeur de la police de Bogota.
Nous savons qu'il y a des difficultés à l'aéroport. Il y a une zone de personnes inadmissibles. Le problème, c'est que lorsqu'elles arrivent à Columbia Migration, elles sont jugées interdites de territoire dans une salle spéciale et c'est là que les contrôles doivent être renforcés.
Les autorités colombiennes préparent des mesures supplémentaires pour accueillir le flux de migrants africains, principalement originaires de la Guinée, du Cameroun, de la Somalie, de l'Angola, du Burkina Faso et d'Érythrée, entre autres. Carlos Fernando García est le directeur des migrations de la Colombie.
Les protocoles visent fondamentalement à établir des contrôles plus stricts qui incluent des informations préalables de la part des compagnies aériennes comme Turkish qui a été liée dans cette affaire afin que nous sachions à l'avance en Colombie si les mineurs arrivent et que nous soyons prêts à les recevoir, à établir une série de questionnaires qui nous permettent de clarifier la situation légale de ces enfants en Colombie.
La police cherche à savoir si des trafiquants d'immigrés sont responsables de ce flux de migrants africains se dirigeant vers l'aéroport d'Eldorado.
VOA Afrique en direct de Washington.
Leurs vies ont été bouleversées par la guerre en Afrique. Une famille espère qu'un nouveau programme américain les aidera à enfin se réunir. Davantage avec Jacques Aristide.
Inquiet pour la santé de sa mère, Jacob Mabil a tout fait pour qu'elle entame les procédures lui permettant de quitter le camp de réfugiés au Soudan du Sud, où elle a passé près d'une décennie de sa vie, et de venir vivre avec lui et sa jeune famille aux États-Unis. Après de longs mois d'hésitation, elle a fini par les rejoindre au Texas en 2020. Mais à l'époque, Jacob Mabil n'avait pas la possibilité de faire venir d'autres proches, dont ses deux nièces, telles que le voulait sa mère, qui les a vues grandir.
Mais je promets que je ferai tout ce que je peux pour les faire venir.
Aujourd'hui, alors que le gouvernement américain revoit la manière dont les réfugiés sont réinstallés, Jacob Mabil et sa famille espèrent que leurs nièces pourront bientôt les rejoindre dans la banlieue de Fort Worth. L'administration du président Joe Biden a introduit un nouveau programme appelé Welcome Call qui permet aux Américains de parrainer et de faire venir des réfugiés à titre privé, comme l'explique Sacha Chanoff de l'ONG Refuge Point.
Les groupes particuliers peuvent se réunir et sélectionner les réfugiés qu'ils souhaitaient faire venir ici de l'étranger. Il y a tellement de personnes qui veulent désespérément retrouver leurs proches. Les jeunes femmes et filles non accompagnées courent souvent de graves dangers. Elles sont régulièrement enlevées et vendues en mariage contre leur gré.
Aku Otlik, l'épouse de Jacob Mabil, voudrait bien que d'autres jeunes femmes réfugiées comme elle aient la même chance de pouvoir refaire leur vie.
C'est une chose qui nous empêche de dormir en l'esprit tranquille, sachant que nous ne sommes pas avec elles pour venir à leur secours. C'est ce sur quoi nous avons vraiment insisté.
Les États-Unis entendent accueillir 125 000 réfugiés au cours de l'actuelle période fiscale. Les autorités sont d'avis que via le programme Welcome Call du département d'État américain, les parrainages privés pourront élargir la capacité d'accueil.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Que diriez-vous d'une escale culinaire en Côte d'Ivoire? Dans les cuisines de son restaurant abidjanais, le chef ivoirien Charlie Kofi harmonise des produits du pays avec un savoir-faire français. Comme lui, ses confrères, parfois formés à l'étranger, sont de plus en plus nombreux à revisiter les spécialités locales. Voyons cela dans cet élément relaté par John Linden.
L'un de ses plats phares, une interprétation de la sauce guaguassou emblématique de la Côte d'Ivoire. Un lapin mijote dans une marmite entourée d'aubergines africaines, d'huile rouge, de poudre d'acqui et de féfé, puis un poivre.
Que j'ai tellement apprécié durant mon enfance. Naturellement,
que bah, les religieux étaient quelque chose d'assez presque une obligation en tant que chef.
Cet amoureux d'aimer de la Côte d'Ivoire, son pays natal, s'est formé en France avant d'ouvrir à Abidjan son établissement, la Villa Altira. C'était en 2017. Dans une salle lumineuse du restaurant, dont la vue donne sur un bassin où nagent les poissons au menu entre de petites plantes grasses, Périguet goûte le guaguassou en cassolette qu'il a commandé.
Je retrouve les mêmes saveurs, on retrouve pratiquement les mêmes saveurs et puis il y a de l'audace, il y a vraiment de l'audace dans la décoration, dans le mélange de certaines épices, certains légumes, donc voilà quoi, c'est pratiquement la même chose, mais je veux dire en mieux, en super professionnel, en artiste.
Quelques kilomètres plus loin, une chef du restaurant Upi, la Maison Palmier, dresse sa nouvelle création. Un amuse-bouche inspiré du plat Kali, plat typique ivoirien, composé d'une sauce gluante au gombo, de morceaux de viande et de poisson séchés accompagnés d'une pâte de manioc fermentée. Le chef cuisinier de ce restaurant au décor épuré, le français Mathieu Gasnier, propose des amuse-bouches de ce type chaque semaine, avec l'idée non seulement de réveiller un souvenir chez les personnes qui connaissent parfaitement ces plats, mais aussi de promouvoir la cuisine locale.
Même si notre cuisine se veut être internationale, parce qu'on est dans un hôtel 5 étoiles, je pense que c'est un non-sens de ne pas faire un clin d'œil à tous les beaux produits qui nous entourent, et puis aussi de pouvoir faire découvrir à certaines personnes qui n'iraient peut-être pas manger dans un restaurant local, ou dans une famille, ou dans un maquis. Donc c'est notre petit clin d'œil sur la cuisine africaine.
Et selon le chef cuisinier Njou Yapi, fondateur de l'association des chefs créateurs d'émotions culinaires de Côte d'Ivoire, de plus en plus de ses confrères revisitent des plats locaux. Une tendance commencée au milieu des années 2000.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seguidia, à la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Mock Charleston. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, Lex, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Let me pray.